France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Pas d'accord en vue avec la Chine, expliquait Donald Trump encore vendredi, en attendant la reprise espérée des négociations entre les deux grandes puissances en septembre. On en est là. Les tensions générées par la guerre commerciale lancée au printemps 2018 déjà inquiètent, et pas uniquement les places boursières. La crainte est généralisée de voir la croissance mondiale durablement atteinte, d'autant que Pékin, la semaine dernière, a laissé le yuan perdre suffisamment de valeur pour contrer, pour essayer d'effacer les attaques douanières des États-Unis. Depuis un an et demi, et les premières menaces de Donald Trump sur les exportations chinoises, les marchés financiers sont nerveux et l'Union européenne semble n'avoir d'autre choix que d'être spectatrice et pénalisée aussi avec sa monnaie trop forte. La question est de savoir où tout cela nous mène. La campagne de Trump pour sa réélection et les visées impérialistes de Xi Jinping, qui va bientôt célébrer les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, peuvent-elles nous faire craindre une crise généralisée? Quelles sont les dernières nouvelles de la mondialisation? Pour en parler ce matin avec nous, Dominique Plion, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris 13 et porte-parole du conseil scientifique d'attaque. Et puis nous sommes également avec Pascal Boniface. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Donald Trump disait l'an dernier, les guerres économiques, c'est facile à gagner. Pour l'instant, les événements lui donnent pas franchement raison. Ce qu'on constate en revanche, c'est qu'il est facile de poser les bases d'une crise économique mondiale. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Avec le recul, Dominique Plion, est-ce que ce coup de frayeur qu'on a perçu la semaine dernière sur les places boursières mondiales, c'était un signe de nervosité un peu comme d'habitude, de frilosité, ou est-ce que c'était plus grave que ça, à prendre au sérieux?
Oui, je crois que c'est à prendre au sérieux, parce que là, on assiste à une guerre commerciale, à des tensions importantes entre les deux puissances, les deux superpuissances du moment. Les marchés qui ont vivement réagi, une chose dont ils ont horreur, c'est l'incertitude. Cette surenchère et cette riposte de la Chine en particulier fait qu'il y a une tension et incertitude sur l'avenir dans une période où l'économie mondiale se porte pas si bien que ça. On voit que dans toutes les zones, que ce soit l'Asie, les États-Unis, l'Europe, il y a un ralentissement d'activité, une incertitude, et cette tension politique autant que commerciales sont vraiment un facteur relativement nouveau par rapport à ce qu'on avait pu observer ces derniers temps.
On a l'impression, ou il donne l'impression en tout cas, Donald Trump, d'utiliser cette incertitude et d'utiliser cette imprévisibilité finalement comme une arme contre la Chine. Est-ce que ça va se retourner contre lui du coup dans un contexte un peu plus global?
Oui, je pense qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être l'arroseur arrosé, parce que là pour le moment, Donald Trump donnait l'impression de dominer l'agenda et de poser ses conditions, de décider par exemple qu'il allait taxer à partir du 1er septembre l'ensemble des exportations chinoises, pensant qu'il allait marquer des points décisifs dans un contexte de sa campagne électorale dont vous avez, que vous avez rappelé. Et c'était sans compter sur une réaction inévitable en fait de la part des Chinois, qui ont réagi de deux manières. Premièrement, en décidant de stopper les achats de produits agricoles états-uniens par la Chine, et donc pour Donald Trump, les agriculteurs sont une partie importante de son électorat. Et puis deuxièmement, on n'a pas les idées très claires sur ce qui s'est passé, mais il y a eu très clairement le yuan a glissé, c'est-à-dire s'est déprécié, ce qui a gommé en partie les hausses de droits de douane que les États-Unis veulent mettre en place.
Comme par hasard, c'est ça ce que vous dites.
Comme par hasard, voilà. Et donc, on sait très bien que la Chine contrôle assez bien son marché d'échange, parce que le yuan n'est pas une monnaie totalement convertible. Il y a des contrôles de capitaux importants. Et donc, on peut imaginer, sans en avoir la preuve, que si le yuan baisse sensiblement, comme ça a été le cas aux environs du 5 août, c'est que les autorités, au pire, ont laissé faire et peut-être ont agi.
La question, c'est de savoir s'il y a d'un côté la politique erratique de Trump, une politique erratique de Trump, et de l'autre, une vision peut-être plus posée et de long terme de Xi Jinping. On va y revenir. Lui, il a peut-être plus le temps que Donald Trump. Dominique Plion, une crise monétaire qui se transformerait en crise, une crise économique qui se transformerait en crise monétaire, c'est ce qu'on a vécu en 1929, c'est ça le phénomène qui est celui qui fait peur finalement.
Non, je ferai un parallélisme plutôt avec plus près de nous ce qui s'est passé en 2007. Certains ont fait remarquer que Je crois que c'était le 7 août 2007, 2007, oui. Il y a eu une baisse sur les marchés, une sorte de petite mini-panique.
Qui n'était pas énorme.
Qui n'était pas énorme, de l'ordre de 3%, ouais. Mais qui était annonciatrice d'une inquiétude. Et là, on a eu une baisse de l'ordre du même ordre. Je crois que c'était le 5 août récent, là, ces jours-ci. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais partie des économistes. Je pense qu'on est maintenant assez nombreux qui pensent que les conditions sont réunies pour que, s'il y a une étincelle, la situation économique et financière mondiale se dégrade sérieusement. Pourquoi? Bah, par exemple, il y a deux critères parmi d'autres, trois même, je dirais. Premièrement, sur le plan réel, l'économie mondiale va moins bien. Ensuite, sur le plan financier, il y a un surendettement de la plupart des pays et des acteurs privés aussi. Et puis, il y a une masse énorme de liquidités suite aux politiques, notamment des banques centrales, qui ont injecté des liquidités massives pour éviter d'ailleurs la déflation et pour lutter contre la crise,
les effets de
la crise de 2008. Voilà. Et donc, ces conditions-là sont réunies s'il y a une étincelle. Et ça peut créer une déflagration non négligeable. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut être très, très, très prudent. Je ne dis pas que la crise va arriver, mais un choc non négligeable peut avoir un impact important. Donc, je crois qu'il faut être très prudent. La période actuelle est une période où on est au bord du précipice.
Ouais, dans un contexte donc un peu électoral, aux États-Unis, on est bien d'accord. Vous disiez tout à l'heure, Dominique Plion, que sur le plan intérieur, cette guerre menée par Donald Trump depuis un an et demi ne fait pas que des euros. Effectivement, les agriculteurs américains ont bien compris que quand la Chine met ses menaces de ne plus importer, par exemple, du soja, ça se sent tout de suite. Les consommateurs ont bien senti aussi les effets de cette guerre commerciale. Est-ce que le monde entier vit et subit la politique intérieure américaine et la campagne américaine en ce moment, Pascal Boniface?
Oui, parce que depuis le départ, depuis son élection, Trump fait une politique extérieure qui est uniquement dirigée par des motifs de politique intérieure. Bon, tous les États le font, mais à ce point caricatural, c'est extrêmement grave et particulier. Et les grands mouvements que Trump a donné à la diplomatie française sont là, non pas pour satisfaire l'intérêt à long terme des États-Unis, mais l'intérêt à court terme électoral et de ceux qui ont voté pour Trump en 2016, pour qu'il revote pour lui en 2020. Et c'est pour cela qu'il est un peu coincé, parce que, contrairement à ce qu'il a dit, la phrase que vous avez citée, les guerres économiques ne sont pas faciles à gagner, et généralement il y a plus de perdants que de gagnants dans ce type de guerre. Et aujourd'hui, les milieux économiques, les milieux d'affaires, pour ne pas parler des agriculteurs, donc aussi beaucoup d'électeurs de Trump commencent à s'inquiéter des effets de sa politique. Trump pensait à tort que, avec la Chine comme avec l'autre, il suffisait qu'il tape du poing sur la table pour que tout le monde passe sous la table et qu'il pourrait gagner facilement cela. Ce n'est pas le cas avec la Chine depuis longtemps, et encore moins avec la Chine actuelle, et encore moins avec Xi Jinping, qui lui aussi, même s'il n'a pas un électorat, a une forme d'opinion publique qui, en tous les cas, ne cédera pas sur le patriotisme, sur le nationalisme et sur le fait de devoir obéir et déférer à des ordres venus des États-Unis. Et donc Trump va devoir trouver une solution en 2020, parce que si la crise économique se répand, s'il y a une inflation, parce que quand vous taxez les biens importés à 20%, bah, ça se retrouvera dans les prix, et donc même sans baisse du yuan. Donc les mesures que Trump prend, comme très souvent peuvent être payantes à court terme, peuvent être plus dommageables à long terme, mais là le long terme peut être y compris le moyen terme, c'est-à-dire les élections de 2020, et je pense que cette position n'est pas tenable. Et en même temps, les Chinois ont aussi besoin d'un accès au marché américain, parce que c'est ça qui fait tourner leur économie, et que la réussite économique est la clé essentielle de la légitimité du régime. Aujourd'hui, le régime chinois, c'est pas les œuvres de Marx ou de Mao, c'est le taux de croissance. Donc je pense qu'ils seront contraints à trouver un accord qui soit bénéficiable pour les deux. Il faut trouver une sorte de solution pour sauver la face à chacun. Mais le problème, c'est que parfois Trump est emporté dans son élan, qu'il a du mal à se rattraper. Et vous avez signalé dans votre intervention les différences de calendrier. Xi Jinping, lui, vise 2030. Trump, lui, a l'horizon fixé sur 2020.
Oui, sur l'an prochain. Voilà. Donc ça répond à la question que je posais aussi tout à l'heure. Trump est dans une politique court-termiste, effectivement, voire erratique. Et Xi Jinping, lui, voit plus loin. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas une volonté quand même de réimposer les États-Unis comme la puissance mondiale au niveau économique? Parce que c'est aussi ce qu'on pourrait imaginer de la politique.
À tous les niveaux. Trump a mis très clairement son programme, America First, Make America Great Again. Et donc, effectivement, mais est-ce qu'il peut empêcher la montée en puissance de la Chine? Est-ce qu'il peut décider de tout? Il n'a pas réussi à construire un mur avec le Mexique. Il n'a pas réussi à faire beaucoup de choses qu'il avait promises, même si une partie de son agenda a été réalisée. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il est à la hauteur de la puissance américaine de contenir la montée en puissance de la Chine et de penser qu'il pourra faire une sorte de rollback, de faire revenir en arrière la Chine? Les Chinois n'en ont aucune envie, évidemment, et je ne suis pas sûr que ça soit à la mesure de la capacité de Trump. Et comme vous l'avez signalé, le problème des Européens, c'est que nous assistons un peu impuissants à ce duel et que Trump va forcément nous demander d'être à ses côtés, parce que lui, pour lui, les alliés ne comptent pas beaucoup, sauf qu'il en a besoin et qu'il leur demande d'obéir. Il ne s'en occupe pas, il les voit plutôt. Il a déclaré lui-même que l'Union européenne est un ennemi. Et par rapport à des revendications qu'il a sur la façon dont la Chine fait du commerce, certaines de ces revendications sont légitimes et les Européens les partagent. Mais au lieu de faire un front commun sur la façon dont les Chinois ne respectent pas le fair play économique et commercial, il a dit « je m'attaque d'abord à la Chine et je réglerai le compte de l'Union européenne ensuite ». Donc c'est pas très motivant et peut-être que là l'Union européenne devrait faire entendre sa propre voix et ne pas être uniquement suiveur parce que nous sommes dans la même alliance stratégique d'une politique erratique effectivement des États-Unis.
Dominique Plion.
Oui, je crois que tout donne à penser que Trump n'a pas dans son logiciel personnel et celui de son administration intégré le fait qu'on est dans un changement important au sens où il y avait jusqu'ici une hégémonie absolue des États-Unis. Il y avait ce qu'on appelait, ce que les économistes appellent quelquefois la stabilité hégémonique, c'est-à-dire il y a un hégémon qui domine, les autres suivent la règle. Là, c'est fini. On est dans un monde polycentrique. En tout cas, un duopole. En tout cas, deux grands pays, peut-être trois si on prend l'Europe, même si elle est beaucoup plus faible et beaucoup plus divisée. Et donc, il n'a pas intégré cette dimension-là. Il y a une sorte de théorie des jeux qui lui manque. C'est-à-dire que quand on a plusieurs partenaires qui ont des intérêts parfois convergents, d'autres divergents, et chercher des alliances, jouer plus subtilement, comme le disait Pascal Boniface à l'instant, entre les Européens et les États-Unis, il est tellement primaire dans ses réactions qu'il n'intègre pas ces nouvelles dimensions. Et c'est ça qui peut être inquiétant pour le monde, hein, c'est-à-dire que d'avoir des dirigeants, en particulier aux États-Unis, mais pas que, hein, même en Europe, hein, qui n'intègrent pas cette dimension nouvelle du monde, où on est un passage d'une hégémonie absolue jusqu'à la période Bush, disons, hein, et maintenant une période où il y a un partage, voilà, une montée en puissance d'autres pays, ce qui est inévitable et souhaitable, hein, et donc ça implique de nouvelles règles du jeu et on a l'impression que l'administration américaine n'a absolument pas intégré cet aspect. Et c'est ça qui peut déboucher sur des tensions politiques et économiques.
On va continuer sur ce que tout ça nous dit de la mondialisation telle qu'elle est en train d'évoluer finalement. Mais on est quand même dans un contexte aussi de dégradation de l'économie chinoise. Dominique Plion, est-ce que c'est pas aussi une des raisons de la dévaluation du yuan parce que ça fait bien quand même les affaires aussi, et aussi à court terme d'ailleurs, de la Chine?
Alors, en fait, oui, la crise économique qui a commencé après la crise financière de 2007-2008 s'est traduite par un ralentissement général du commerce et donc des échanges. Et quels étaient les premiers pays concernés? C'était les plus gros exportateurs. C'est pas un hasard si aujourd'hui les plus gros exportateurs que sont la Chine d'un côté, l'Allemagne de l'autre, avec des différences évidemment importantes, sont en difficulté. L'Allemagne est au bord d'une récession. Et la Chine est en difficulté relative. Alors, ça fait 27 ans qu'elle n'a pas eu un taux de croissance aussi bas, mais c'est quand même un taux de 6%. Voilà. Bon, donc, et puis, pour moi, en tant qu'économiste, disons, critique, je dirais que le critère de la croissance n'est pas le plus important. Mais c'est vrai que la Chine se trouve face à une difficulté, c'est que son modèle, qui était fondé sur les exportations, qui tirait l'activité économique, ce modèle-là, d'ailleurs les Chinois le reconnaissent, hein, doit être remis en partie en cause, c'est-à-dire se retourner davantage vers son marché intérieur, où il y a des besoins encore énormes qui ne sont pas satisfaits dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'alimentation, le logement, etc. Donc la Chine a besoin d'évoluer, elle s'est rendue compte à l'occasion de la crise qu'elle était beaucoup trop dépendante de ses exportations, et en ce moment elle est aussi dans une phase de transition de ce point de vue-là, et elle souffre de ce ralentissement. Donc, la dépréciation du yuan la tendance à la baisse de sa monnaie est plutôt une bonne chose dans ce contexte, pour doper un peu plus ses exportations qui souffrent du ralentissement de l'économie mondiale.
Avec des risques quand même de déflation ou de fuite des capitaux, comme on voit
alors,
régulièrement
dans ces cas-là. Bien sûr, il y a ce risque, mais encore une fois, le modèle chinois n'est pas comparable en matière de capitaux, circulation des capitaux, avec ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. En Chine, il y a un contrôle des capitaux qui reste encore très important. Et les autorités ont des leviers importants pour limiter des sorties éventuelles de capitaux, je pense. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de péril dans la demeure, je pense, de voir tout d'un coup des fuites énormes de capitaux qui créeraient une crise sur le marché des changes, une spéculation sur le yuan, etc. Je crois que la monnaie, le yuan, est bien en main, bien protégé par les autorités. Et donc, il n'y a pas de risque de ce point de vue-là.
Pascal Boniface, qu'est-ce que tout ça nous dit de la mondialisation? Que nous dit finalement cette bipolarisation qui est en train de se faire sous nos yeux finalement entre la Chine et les États-Unis? Vous me dites si vous validez ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la nouvelle mondialisation?
Bah effectivement, c'est qu'il y a un changement de paradigme et que la question n'est plus de savoir si la Chine va devenir la première puissance mondiale, mais quand la Chine va devenir la première puissance mondiale. Il y a un passage de relais entre les deux puissances dominantes, avec effectivement une attitude aux États-Unis de dire de refuser, mais c'est en même temps refuser la réalité. Et la théorie du piège de Thucydide, qui est très à la mode aux États-Unis, de dire que historiquement, lorsque la puissance numéro 1 se fait rattraper par la puissance numéro 2, il y a un affrontement, comme on a vu dans les temps passés entre Sparte et Athènes, est très en vogue. Et donc, est-ce que les États-Unis vont accepter ce rattrapage? Et s'ils ne l'acceptent pas, est-ce qu'ils peuvent l'empêcher? Et à la seconde question, la réponse est manifestement non. Donc, est-ce qu'il y aura un passage en douceur ou une sorte de brutalité? Trump ne peut pas accepter psychologiquement, politiquement, de voir cette montée en puissance de la Chine. En même temps, il n'a pas les paramètres pour l'empêcher. Et en tous les cas, la façon dont il se conduit pourrait plutôt accélérer ce passage de témoin, parce que les Chinois ont pris conscience que, notamment en matière technologique, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils sont encore très largement dépendants des États-Unis, et donc avec leur plan Chine 2025, ils accélèrent les conditions de leur autonomie, et les menaces que Trump a fait peser sur Huawei vont plutôt accélérer l'autonomisation des grands acteurs technologiques chinois plutôt que de continuer à avoir des relations de dépendance mutuelle. Mais sauf que lorsque deux éléphants se battent, eh bien tous ceux qui sont dans la pièce souffrent un peu. Et s'il y avait une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, c'est l'ensemble du système mondial de par le poids respectif de ces deux pays. Mais une fois encore, le vrai danger, c'est qu'on a un acteur, Trump, qui n'est pas dans le long terme, qui veut montrer qu'il est le mâle dominant de la scène internationale. Et effectivement, il arrive toujours à faire l'agenda. Il a vraiment un talent et il ne faut pas le prendre à la légère, il ne faut pas le prendre à la rigolade. Le piège par rapport à Trump, c'est d'en rire. Alors que lui a un vrai programme qu'il applique, qui est un programme qui est dangereux, mais qui n'est surtout pas risible. Il faut prendre Trump au sérieux, et pendant trop longtemps, on ne l'a pas pris au sérieux. On voit bien la difficulté des dirigeants européens, qui sont complètement effarés de l'attitude du président américain, parce que dans leur logiciel stratégique, il fallait compter sur des États-Unis forts et protecteurs. On a tout à fait l'inverse. Et en même temps, ils ont du mal à se réadapter par rapport à ce qui est un changement total de logiciel à Washington. Les pays européens sont tellement habitués à leur dépendance stratégique à l'égard des États-Unis qu'ils ont du mal à réorienter cela et à développer leur autonomie dont ils parlent, mais qu'ils ne mettent pas réellement en œuvre parce qu'il y a des habitudes qui sont prises et parce qu'eux-mêmes sont divisés, vu qu'il y a des pays qui plaident encore pour maintenir la dépendance.
Vous dites, s'il y avait une crise économique entre la Chine et les États-Unis, pour vous, elle n'a pas commencé.
Elle pourrait être pire.
Ça pourrait être pire, comment?
Elle pourrait être pire, parce que si vraiment les taxations annoncées par Trump sont réalisées, là on rentrera vraiment dans le dur. Pour l'instant, on est plutôt quelqu'un qui, dans un bar, menace de retirer sa veste et de donner des coups de poing, mais pour l'instant, il n'a pas encore retiré sa veste, il n'a fait que le menacer, et la bagarre n'a pas commencé.
Dominique Plion.
Oui, le dernier épisode sur le yuan, suite aux annonces de Trump qu'il allait augmenter encore les droits de douane sur les produits chinois, les importations chinoises aux États-Unis, c'est un signal. Il faut le voir comme un signal, parce que très vite, les autorités ont fait rentrer les choses dans l'ordre, ont montré qu'elles maîtrisaient en fait leur monnaie. Pour moi, je le vois comme un signal, mais un signal très clair, en disant, attention, si vous continuez, l'étape suivante pourrait être beaucoup plus dommageable. Et donc là, comme Trump est totalement imprévisible et qu'il n'a pas une théorie des jeux, il n'a pas un logiciel qui lui permet d'intégrer toutes les contraintes, on ne sait pas encore quelle sera sa réaction. C'est ça qui est inquiétant, je pense, aujourd'hui. Tout le monde observe en se demandant, mais qu'est-ce qu'il va faire?
Pourrait aller jusqu'où, Dominique Clion?
Comme le disait Pascal Boniface, s'il est primaire et qu'il monte encore d'un cran la surenchère, là ça pourrait déclencher de nouvelles réactions et en chaîne, après qu'on ne maîtriserait plus, si vous voulez. Et donc c'est ça qui est à craindre. Aujourd'hui, le volcan, il est plutôt du côté de la finance, c'est-à-dire qu'il y a toutes les conditions, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont réunies pour qu'il y ait vraiment un choc financier important s'il y a l'étincelle. Et là, si on a un choc financier important, avec un effondrement de certains marchés, par exemple, avec des acteurs qui sont très endettés et qui souffriront de cette situation, on a les éléments pour une crise, quoi, financière qui pourrait ensuite amplifier la situation économique dégradée actuelle.
Lorsque Trump s'attaque à la Chine, il est populaire parmi ses électeurs qui pensent effectivement que la Chine les a pillés, les a volés. Mais par contre, les milieux économiques sont inquiets parce qu'ils voient le coût dont eux-mêmes pourraient souffrir. Et les grandes compagnies américaines sont très inquiètes des positions de Trump.
Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, Dominique Plion, Pascal Boniface. On se retrouve après le journal de 8h.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
Voilà, la suite des matins d'été sur cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, alimentée par des considérations géostratégiques. Peut-elle se changer en guerre des monnaies? Y a-t-il un risque de crise généralisée? Comment ce conflit, qui s'annonce long, on le disait tout à l'heure, et compliqué, peut se comprendre dans un contexte global? Quelles sont les dernières nouvelles de la mondialisation? C'est notre sujet du jour. Nous sommes avec Dominique Plion, économiste, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et porte-parole du Conseil scientifique d'ATTAC. Et puis Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On parlait tout à l'heure dans la première partie de cet entretien de la dévaluation du yuan. Alors c'est pas exactement le terme que vous avez employé, Dominique Plion. Vous nous expliquez que c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. En tout cas, on ne sait pas. Il y a quelque chose d'opaque derrière ce qui est possiblement une manœuvre de Pékin, mais on ne sait pas. Pékin qui se défend en disant, quoi qu'il en soit, si le yuan fluctuait librement, comme c'est le cas des autres monnaies, on aurait finalement le même résultat. Son pouvoir aurait diminué.
Oui, enfin, il faut peut-être prendre un peu de recul. En reculant même de plusieurs décennies, il est assez clair que la Chine, les autorités chinoises, ont œuvré de manière à sous-évaluer leur monnaie ou à éviter qu'elle s'apprécie, en tout cas, depuis les années 90 et surtout le début des années 2000, puisque faut le rappeler, la Chine est rentrée à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, et donc a développé son ouverture commerciale et ses exportations. Et donc, l'intérêt de la Chine, c'était d'avoir une monnaie la plus faible possible. Et quand un pays se met à avoir des excédents comme elle a eu, qui sont devenus énormes, et structurel, c'est-à-dire permanent, normalement un pays qui a une telle situation voit sa monnaie s'apprécier, parce que on demande de plus en plus de produits chinois, on demande de plus en plus de yuan, le yuan devrait monter, or il n'est pas monté. Donc il y a eu une intervention des autorités qui s'est traduite par une montée spectaculaire des réserves de change de la Chine, qui a acheté en dollars, qui a acheté les bons du trésor états-uniens massivement, de l'ordre de, il y a une détention de 1000 milliards de dollars de bons du trésor états-uniens. Donc il est très probable que la Chine ait été intervenue pour limiter la hausse.
Ça fait consensus, Dominique Plion?
Il y a des économistes qui nient cela. Moi, je pense, je fais partie de ceux qui pensent que la Chine a évité la hausse de sa monnaie qui aurait dû se produire suite à ses excédents. Bon. Donc ça, c'est, or, il y a eu très peu de la part des États-Unis pendant cette période, d'ailleurs, très peu de protestations à ce sujet. Alors là, la Chine est accusée, non sans raison peut-être, d'avoir manipulé, comme disent les autorités américaines, son taux de change pour le faire baisser ces derniers jours, en riposte aux menaces de Trump. Et ça, c'est tout petit. C'est une baisse très peu importante d'une dépréciation très faible du yuan, qui pour moi est plus à interpréter, comme je le disais tout à l'heure, comme un signal envoyé aux États-Unis. Attention, vous avez poussé le bouchon trop loin. On a des munitions pour agir si vous continuez. Donc c'était une espèce de guerre où les joueurs d'échecs poussent leur pion, et là les Chinois semblent avoir poussé un pion en disant attention, on a de quoi réagir. Voilà. Et donc c'est ça la stratégie. C'est une stratégie très calculée à mon avis, parce que encore une fois, la Chine, les autorités chinoises, la Banque centrale de Chine maîtrise très bien son taux de change. contrairement à ce qui se passe pour l'euro ou pour le dollar qui fluctue plus librement. Et donc, si sa monnaie baisse, on peut penser, se déprécie comme ça s'est passé ces derniers jours, eh bien, on peut penser que les autorités chinoises, au minimum, ont laissé faire et probablement ont agi en achetant du dollar et en vendant du yuan pour le faire baisser.
Et ce fait-là que la Chine possède une grande partie de la dette américaine, comment ça joue dans l'équation ?
Voilà, exactement. C'est pour ça que je l'ai introduit, cet élément. C'est que c'est une arme potentielle des autorités chinoises qui pourraient exister dans le futur, dans le combat. Si la bataille se poursuit, eh bien, que pourraient faire les autorités chinoises ? Elles pourraient décider de vendre massivement, en quantité de manière significative, une partie de la dette états-unienne, ce qui ferait baisser cette dette, rendrait la valeur des titres américains, donc perturberait le marché de la dette américaine. Or, les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde, à l'international. Donc, si vous voulez, ça, c'est une arme, pour le moment, qui n'est pas agitée, mais qui pourrait être agitée. Et ça, c'est inquiétant, parce que si ça se produisait, c'est pas du tout sûr que ça se produise, hein, évidemment, mais ça suffit potentiellement, la menace est là.
C'est de la dissuasion.
C'est un des marchés qui, aujourd'hui, est le plus fragile, qui serait menacé, c'est le marché de la dette, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs publics, mais aussi privés qui sont surendettés. Et s'il commence à y avoir des perturbations sur les marchés des dettes, alors là, ça pourrait être l'amorce d'une crise financière.
De quelque chose qui pourrait se comparer peut-être dans, en tout cas, sa quantification à la crise des subprimes, à l'explosion de cette bulle.
Ce n'est pas de même nature, hein, parce que là, la crise des subprimes, on avait affaire à un surendettement des ménages américains, à des difficultés des banques américaines. Là, on aurait quelque chose qui serait différent et peut-être plus international. Parce que le marché de la dette, public ou privé, c'est un marché qui est devenu international. C'est-à-dire que quand un État émet de la dette, il est en France, par exemple, les deux tiers de notre dette publique est détenue par des non-résidents, par des étrangers. Voilà. Et quand une entreprise aujourd'hui, comme Danone ou bien Bouygues, émet des titres, des obligations, elle est détenue, elle est achetée en partie par des investisseurs internationaux. Donc aujourd'hui, ce marché-là, il est international. Et d'où le risque, si ce marché de la dette venait à être perturbé, d'une déflagration qui aurait des dimensions internationales difficiles à prévoir, hein, dans ses conséquences, mais probablement qui pourrait être dangereuse. C'est pour ça que aujourd'hui on doit être très prudent et espérer que on n'aille pas jusqu'à cette extrémité, évidemment.
La Chine a des arguments, donc, ce que vous nous dites. Hein,
voilà, je le pense.
Et elle a aussi évidemment des visées expansionnistes. Alors certains disent impérialistes. Pascal Boniface, vous avez évoqué tout à l'heure, avant le journal de 8 heures, le plan Made in China 2025. On connaît aussi le projet des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, qui est un projet gigantesque. Tout ça est à mettre aussi en contexte avec cette guerre commerciale, est à mettre en contexte avec ces plans chinois très, très volontaristes.
Tout à fait. Il y a eu un changement avec Xi Jinping, parce que à l'époque de Deng Xiaoping voulait garder un profil bas, voulait que la Chine progresse, mais ne pas afficher cette progression et cette montée en puissance de la Chine, alors que Xi Jinping, lui, dit franchement que la Chine doit devenir la première puissance mondiale et qu'il y a des plans. Et effectivement, les nouvelles routes de la soie, qui sont un plan pharaonique, un projet pharaonique d'infrastructures, sont là pour à la fois doper la croissance chinoise, sécuriser les approvisionnements et permettre, faciliter les exportations, mais aussi créer de l'influence, parce que quand vous construisez un port, un aéroport, une voie ferrée dans un pays, eh bien vous gagnez en influence. Et la Chine, d'ailleurs, de façon assez clairvoyante, dit que pendant que les États-Unis exportent des conflits, eux exportent des infrastructures. Il y a eu un coup de fil qui est passé un peu inaperçu entre Trump et Carter, et Trump demandait à Carter, les relations diplomatiques officielles ont été ouvertes entre la Chine et les États-Unis quand Carter était président, et Carter a dit, c'est simple, depuis qu'on a des relations diplomatiques avec la Chine, donc depuis 1979, la Chine n'a jamais été en guerre. Nous l'avons été constamment. Et donc là, il y a aussi une différence d'appréciation entre les uns et les autres. Et puis, l'arme suprême pour la Chine, ça sera lorsqu'ils commenceront à privilégier leur propre monnaie pour les échanges internationaux, parce que pour le moment, c'est toujours le dollar qui sert, y compris pour les importations et exportations chinoises. La Russie a d'ores et déjà retiré pratiquement le dollar de ses réserves de change. Alors la Russie n'est pas un acteur économique aussi important que la Chine, et les relations commerciales entre la Russie et les États-Unis sont faibles, c'est 1% du commerce américain. Mais si la Chine, et Poutine a appelé à la dédollarisation de l'économie internationale, et on sait qu'il y a des consultations de plus en plus fréquentes et intenses entre la Chine et la Russie pour faire front commun, justement par rapport aux États-Unis, et si la Chine glissait, alors s'ils vendaient leurs bons du Trésor, ils se puniraient eux-mêmes parce qu'ils feraient perdre de la valeur à leur propre bien. Ils ne peuvent pas le faire brutalement, mais on peut très bien voir un glissement progressif, notamment par rapport aux menaces américaines de sanctions, par rapport à la législation extraterritoriale américaine qui permet de sanctionner un pays uniquement parce qu'il a utilisé le dollar pour ses achats, même s'il n'a fait aucune opération sur le territoire américain. La tentation d'opérer avec une autre monnaie est très forte. Et d'ailleurs, il faudrait que les Européens également se saisissent. On le fait un peu pour l'Iran, sur une échelle très réduite. Et donc là, les grandes menaces de Trump par rapport à tous les autres pays et le fait de dire « je vais commander le monde entier et tout le monde va m'obéir », le risque énorme, qui est là l'arme de dissuasion massive, ça serait que le dollar ne soit plus ce qu'il est, qui est une grande force pour les États-Unis, la monnaie de l'économie internationale.
Ça serait possible, Dominique Pluyon ?
Alors,
et comment ?
L'histoire économique et monétaire enseigne quand même que la perte d'influence d'une monnaie dominante, comme le fut par exemple la livre sterling à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est quelque chose de très progressif. Il y a un phénomène d'inertie très fort. Donc là, pour moi, la dédollarisation n'est pas pour demain. Mais il y a, comme le disait Pascal Boniface, en effet déjà des tentatives faites par un certain nombre de pays, dont les Européens aussi d'ailleurs, pour essayer de, les Russes et les Chinois, de restreindre l'utilisation du dollar. Ce qui fait la force du dollar aujourd'hui au niveau international, c'est que la plupart des matières premières, à commencer par le pétrole, sont libellées en dollars. Et donc l'idée, ça serait d'arriver à avoir des marchés du pétrole et du gaz naturel qui ne soient pas libellés en dollars. Et d'ailleurs, les Chinois ont déjà lancé la mise en place d'un tel marché, notamment pour la couverture, ce qu'on appelle les marchés à terme, qu'ils soient en yuan et qu'ils ne soient pas en dollars sur le marché du pétrole. Donc il y a des premières tentatives. Mais mon analyse personnelle, c'est que cette dédollarisation se produira tôt ou tard, inévitablement, avec la montée en puissance de la Chine et d'autres pays. D'ailleurs, il y a d'autres pays qu'il faut mentionner, par exemple, comme l'Inde, etc. Et donc, elle se produira, mais elle sera très, très progressive. Et donc, il y a encore de l'espace pour les États-Unis pour utiliser leur monnaie comme une arme de dissuasion.
Mais les routes de la soie, du coup, sont faites pour ça, si on vous comprend bien tous les deux. Cette stratégie à très long terme, cette stratégie chinoise, est faite pour arriver vraiment à s'imposer comme une puissance économique autant que politique.
Les routes de la soie, il faut prendre ça très au sérieux. C'est un programme phare de Xi Jinping lui-même. Il l'a lancé en 2013. C'est son programme et il veut rentrer dans l'histoire comme l'empereur chinois qui aura effectivement...
Il a
défait, il y avait une règle, pas plus de deux mandats, il a cassé cette règle et donc il se programme pour être le nouveau Mao, mais un Mao qui réussit économiquement. Alors que du temps de Mao, la Chine était une sous-puissance économique. Et effectivement, on voit bien que les pays qui reçoivent des infrastructures sont ravis de voir des investissements chinois, même s'il faut faire attention, il y a le piège de la dette également. Et certains pays, dont la Malaisie pourtant, très proche de la Chine, a dit nous on ne veut pas tel projet parce qu'il y a le piège de la dette et vous nous entraînez vers quelque chose qu'on ne veut pas.
C'est un piège dans lequel est tombée l'Afrique, par exemple, ou certains pays africains.
Certains pays africains, effectivement, se méfient de cela. Mais par exemple, la nouvelle voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti, c'est une voie ferrée française auparavant. Elle est tombée un peu en désuétude. C'est la Chine qui en a créé une nouvelle. Entre Mombasa et Nairobi, ce sont les Chinois qui opèrent la voie ferrée. Et donc là, on voit un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, mais pas seulement, là où il y a des matières premières, mais pas seulement. C'est aussi en Europe. Le port du Pirée est maintenant opéré par les Chinois. Donc on voit qu'il y a une stratégie très consciente et surtout sur le long terme. Et c'est ça, c'est que si l'on veut réagir par rapport aux défis chinois, et la Chine est un défi, il faut que l'on mette dans une perspective de long terme ce que souvent les démocraties ont du mal à faire et ce que Trump est incapable de faire.
C'est le problème des élections ?
Tout à fait. Mais c'est le problème aussi d'une volonté politique aussi.
Oui, bien sûr. Au niveau européen, cette volonté politique, on l'attend toujours, Dominique Pluyon ?
Oui, bien sûr, on l'attend toujours. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit les 27 pays de l'Union européenne faire front commun par rapport à la question du Brexit, par rapport au Royaume-Uni, être incapable de faire front commun par rapport aux États-Unis. Bon, il y a des explications, c'est pas du tout surprenant. Mais donc, en effet, cette division des pays européens est vraiment un vrai problème. Et il faut là aussi changer le logiciel. On a un pays qui monte en puissance. Et il faut absolument prendre en compte cette donnée compte tenu notamment des réactions actuelles des États-Unis, qui sont pas du tout coopératives, qui sont non coopératives par rapport à l'Europe.
Merci à tous les deux de nous avoir fait comprendre un peu mieux tous ces enjeux. Dominique Plion, dernier ouvrage paru, Les taux de change aux éditions de La Découverte, et Pascal Boniface, Comprendre le monde chez Armand Collin. Merci à tous les deux d'être passés dans les matins d'été. Il est 8h30.